Vous écoutez toujours Radio Saint-Pierre Express 97.4 en direct du centre culturel communal de Saint-Pierre-des-Corps. Après les élèves du collège Jacques Decourt, nous vous proposons une émission sur le centre culturel. Bonne écoute sur Radio Express.
Merci Maël pour cette introduction. Il va être question du centre culturel communal, de sa programmation à venir, passée, avec Marie Dubois. Bonjour Marie.
Bonjour Daniel.
Donc vous êtes... on se tutoie, on fait...
Ouais, on va se tutoyer longtemps, pas faire semblant non plus. Oui, bah oui.
Donc tu es directrice par intérim du centre culturel communal, c'est bien ça?
C'est exactement ça.
Voilà, on fait un petit coucou à Céline.
Voilà, un coucou à Céline. Tout
voilà.
Coucou Céline. Et... attends, il y a des caméras. Coucou
bah oui.
Céline.
On m'a dit qu'il fallait que je souris en plus. Mais je fais de la radio, pas de la télé. Et puis, il y a Maud Terrier et Quentin Mabi, tous les deux membres de la Compagnie du Poulpe. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et désolé, Daniel, de te corriger, c'est le collectif, le Poulpe. La Compagnie Le Poulpe est basée à Angers.
D'accord, donc le collectif.
Mais c'est
il,
ça.
Fallait, il faut me corriger.
C'est un détail important.
Je tiens à l'honnêteté de l'information. Très bien, je vais commencer par une question toute simple, Marie, en guise d'introduction. C'est quoi un centre culturel?
C'est quoi un centre culturel? En tout cas, je sais que celui-ci, il a vraiment son identité propre, et on y reviendra d'ailleurs après. Un centre culturel, ce sont voilà historiquement donc des structures à destination de la culture sous toutes ses formes, qui sont voilà implantées dans les villes et les communes. Le centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps, si je ne raconte pas de bêtises, a fêté ses 50 ans, me semble-t-il, il y a 2 ans. 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, ça passe tellement vite. J'étais d'ailleurs venu à cette occasion. Voilà, 50 ans d'histoire, donc un centre culturel, voilà, c'est un lieu, en l'occurrence à Saint-Pierre-des-Corps. C'est cet équipement qui va être ouvert à tous et qui va proposer différentes choses en rapport avec la culture, différentes disciplines proposées, mais également des ateliers, on y viendra un peu plus tard, de la pratique, ce qu'on ne voit pas là sur scène, mais qui sont aussi proposés par le centre culturel.
Dans ces disciplines, il y a du spectacle vivant.
Alors voilà, il y a le spectacle vivant, évidemment. Donc le spectacle vivant, bah, c'est simplement des êtres humains, des gens vivants qui sont sur un plateau, comme ces deux personnes. Alors ça peut être des gens qui font de la musique, qui font du théâtre, qui font de la danse, plus largement ce qu'on peut appeler des performances aussi. Le centre culturel, lui, est également rattaché donc à Saint-Pierre-des-Corps, à la galerie Chabrier, qui est non loin de là, hein, qui est la galerie qui longe la mairie. C'est une galerie à peu près de 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, qui sont dédiés là à l'exposition plutôt d'art contemporain. Donc on va dire que le paysage culturel corpo-pétrussien, il est à la fois voilà grâce à cette salle dédiée au spectacle vivant, mais aussi dédiée à d'autres formes d'art que sont l'expression de la création art plastique en général. Et pour terminer, on oublie une chose, c'est le cinéma. Historiquement, cette salle-là, le centre culturel, c'était un cinéma, il y a très très longtemps à Saint-Pierre-des-Corps, qui s'est muté justement en salle de spectacle. Mais il y a toujours des séances de cinéma à Saint-Pierre-des-Corps tous les mardis soirs et puis un mercredi par mois avec une programmation public. Donc c'est voilà, on peut dire que finalement voilà, ce centre culturel il essaye de rayonner sur toutes les aspects culturels.
Est-ce que tu pourrais nous présenter ton équipe?
Alors l'équipe, donc moi effectivement comme tu le disais en introduction, je remplace Céline Lee qui a fait un enfant. Qui est très très beau d'ailleurs.
Ah, il est né déjà.
Il est né, Joanne.
Ah oui,
on lui passe le bonjour à Joanne. Donc voilà, Céline est en congé maternité, je la remplace durant la saison culturelle. Et donc je suis accompagnée dans l'équipe d'un régisseur, il y a un régisseur du lieu qui s'appelle David Jeffard, qui est arrivé il y a peu de temps aussi, à peu près 1 an et demi. C'est une équipe qui s'est beaucoup renouvelée ces 2 dernières années. Ça me perturbe beaucoup cette image. Merci. Il y a le retour caméra en fait qui est très étrange. Donc David, régisseur du lieu, voilà, qui va être aussi l'interface technique d'accueil pour toutes les compagnies, tous les artistes qu'on accueille et qui fait vivre aussi le lieu. Cynthia Carentin qui a 2 casquettes. Cynthia, sa première casquette, c'est de s'occuper de la galerie d'exposition justement à Chabrier dont je parlais. Donc c'est-à-dire, et on y viendra aussi dans la programmation, mais c'est bah, d'accueillir les expositions qui vont avoir lieu toute l'année et d'accueillir aussi tous les publics qui vont venir voir ces expositions, travailler voilà des liens particuliers avec eux. Et plus globalement, elle a une deuxième casquette.
Elle est médiatrice culturelle.
Ouais, médiatrice
c'est ça.
Culturelle. Et donc elle a 2 casquettes. Médiatrice culturelle et chargée, on va dire, du pôle exposition Galerie Chabrier. Donc, sous sa deuxième casquette de médiatrice culturelle, c'est aussi comment elle va favoriser les liens avec toutes les structures sociales et éducatives de Saint-Pierre-des-Corps pour mener des actions de médiation culturelle à destination des tout-petits, des jeunes et aussi des adultes.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément en quoi consiste le travail de médiation culturelle ?
Alors, qu'est-ce que c'est que la médiation culturelle ? Alors, c'est comme le mot culture, hein, ça peut revêtir bien des définitions. Du coup, la mienne, ça serait plutôt médiatrice, ça vient de média, médium. Donc, c'est de cette racine latine qui vient bien expliquer qu'on essaie de faire un lien. Et en l'occurrence, quand on est médiateur, c'est qu'on va faire le lien entre d'un côté le public qui est receveur d'une œuvre et de l'autre côté l'œuvre qui est là. Alors, ça peut être une œuvre plastique, mais ça peut être une pièce de théâtre. L'idée, c'est de favoriser ce lien-là, tout simplement. C'est-à-dire c'est de favoriser la compréhension de l'œuvre, mais pas forcément. Ça peut être tout simplement de favoriser d'accueillir cette œuvre-là, quoi. Voilà, je passe à répondre.
Oui, c'est nécessaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quelle manière elle fait cette intervention, enfin, ce lien auprès, par exemple, des enfants, des jeunes, des adultes? Je pense qu'elle n'opère pas de la même manière en fonction déjà du public accueilli.
Ben c'est ça, c'est une adaptabilité. Je pense qu'on a la médiation culturelle, souvent, et de la façon dont elle est enseignée, c'est qu'on passe par un peu un postulat qui est l'œuvre de l'auteur n'est pas forcément compréhensible, alors il faut absolument l'expliquer. Alors oui, la médiation, elle peut servir à là, mais moi je pense que de nos jours, elle sert surtout à aller aussi vers des publics qui ne s'autoriseraient pas à, et je pense qu'on en parlera aussi avec toute la notion des droits culturels, c'est aussi au-delà d'expliquer, c'est-à-dire de faire de la pédagogie sur qu'est-ce qu'a voulu nous raconter l'artiste, c'est aussi de dire, mais en fait, autorisez-vous à venir ressentir, voir, bouger, exprimer des choses. Et donc, si je prends des exemples tangibles, par exemple, cette année, alors le Poulpe en parlera aussi de leurs propres actions, où là, eux-mêmes, en tant qu'artistes, ils deviennent aussi quelque part passeurs et médiateurs, mais ils en parleront eux-mêmes. Mais par exemple, cette année, avec Cynthia, on travaille sur un stage stand-up. Il y a une compagnie qui vient réaliser un spectacle de stand-up au mois de mars, et on va travailler notamment avec le SMJ, avec les différentes structures aussi, mais je pense aussi au Sac à Malice et avec des structures sociales en général, comment on va embarquer une dizaine de personnes, jeunes adultes et adultes, à eux-mêmes pendant une semaine de stage à s'appréhender à l'exercice du stand-up et à au final se retrouver sur le plateau pour faire la première partie du spectacle, de ce fameux spectacle de stand-up un mois après. Et voilà, l'idée de la médiation de Cynthia, ça va être d'accompagner déjà, c'est d'aller proposer, d'aller trouver des personnes que ça intéresserait, de proposer, de les accompagner et de faire le lien entre l'équipe qu'on accueille qui anime ce stage stand-up et le public qui est là pour faire ce stage. Et puis quand elle accueille à la galerie par exemple une école, alors on a une exposition d'art contemporain avec tout ce que ça peut dire et pas dire. L'art contemporain, ça peut pour le coup être très compliqué, et Cynthia, voilà, elle travaille aussi tout un aspect de concevoir un livret pédagogique, de justement pour le coup de traduire, de rendre accessible, on va dire, ce qu'a voulu raconter l'artiste, qu'on puisse mieux, que des enfants puissent l'apprendre. Et donc c'est de trouver les bons mots par rapport à une tranche d'âge, c'est de trouver la bonne façon d'expliquer quand on accueille ce groupe de scolaires, puis de laisser aussi les gens exprimer ce qui, petit et grand, ce qu'ils éprouvent. C'est pas simplement, encore une fois, expliquer ce que l'artiste veut dire. Je pense qu'il faut que ça soit nécessairement un aller-retour pour moi.
L'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui.
Ce qu'on appelle l'art contemporain, c'est la création d'aujourd'hui, mais avec tout ce que ça veut dire et pas bien dire, on pourrait, si t'as 3 heures là, on peut prendre le temps d'en parler. Si tu...
Non, non, mais c'était pour simplifier le discours, c'est pas si compliqué que ça, l'art contemporain.
Non,
on ferme cette parenthèse sur la médiation culturelle et on poursuit sur la présentation.
Et on poursuit sur l'équipe. Et il y a une troisième personne dans cette équipe qui, pendant très longtemps, petit clin d'œil, Florence Carré, qui vient à peine de partir de l'équipe pour aller voler dit n'importe quoi, c'est juste qu'elle a changé de service, mais qui a quand même pendant plus d'une trentaine d'années travaillé sur un poste plutôt polyvalent d'accueil, puisque c'est un lieu où tous les jours il y a des gens qui viennent soit acheter des places, soit se renseigner, soit s'inscrire à des ateliers, mais il faut aussi en l'occurrence sur ce poste là préparer aussi l'accueil des artistes, qu'on appelle le catering, c'est à l'ERPA quand on les accueille, les hébergements, donc un poste polyvalent qui était jusqu'alors occupé par Florence Carré et qui est aujourd'hui, depuis peu de temps, occupé temporairement également par Marie-France Manic. Donc ça fait une petite équipe de 4 personnes. Et derrière, il y a l'équipe aussi qu'on ne voit pas forcément, c'est les techniciens qui sont là donc les intermittents du spectacle qui sont embauchés pour des spectacles en particulier. Donc généralement on aime bien, voilà, je sais que David s'attache aussi à travailler avec des gens avec qui ça fonctionne bien. Donc c'est des, voilà, c'est ça fait pas partie des équipes permanentes, mais c'est des gens qu'on retrouve avec plaisir sur le montage de spectacles. Et enfin il y a les profs des ateliers. Parce que le centre culturel porte différents ateliers, par exemple de piano, de guitare, il y a également un atelier choral, de hip-hop, et donc l'ensemble de ces ateliers-là hebdomadaires est porté par des professeurs qui font partie intégrante de l'équipe du centre culturel. Voilà.
Tu nous le disais tout à l'heure, le centre culturel était anciennement un cinéma. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de la programmation du centre culturel concernant les projections cinématographiques ?
Alors, concernant les projections cinématographiques, le centre culturel travaille avec un partenaire qui s'appelle Cinéoff, qui est une association et qui porte comme valeur, voilà, l'accès au cinéma au plus grand nombre et donc aussi dans des salles qui ne sont pas labellisées cinéma en fait. Donc Cinéoff, il se balade un peu partout dans le département, 37 et dans d'autres d'ailleurs, pour aller faire aussi des séances de projection dans différents équipements culturels, une salle des fêtes par exemple, pour que le cinéma vienne aussi un peu partout. Donc voilà, ça fait quelques années que Cinéoff travaille avec la ville de Saint-Pierre-des-Corps et donc il nous propose chaque mois qui précède différents films. Donc des films actuels, par exemple le mois prochain il y aura Les Misérables, il y aura Joyeuse Retraite, il y aura La Famille Adam je crois, et là encore il y a un petit travail de médiation, c'est que ils nous disent pas tiens le mardi ça sera tel film. Il nous propose un ensemble de films et souvent ce que fait par exemple Cynthia justement qui est la médiatrice, c'est qu'elle pour ce qui est du jeune public, elle va se renseigner auprès de Billa, du patronage, pour savoir est-ce qu'il y a plus une envie d'aller vers tel film ou tel film. Enfin c'est en discussion, voilà. On n'impose pas le film. Et pareil pour le grand public, elle va demander à plusieurs spectateurs, elle va lancer un petit sondage en fait pour demander qu'est-ce que vous aimeriez plutôt voir ce mois-ci ou pas voir. Et en fonction de ça, on finalise la programmation cinéma chaque mois.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur Cinéoff, je les invite à aller sur le site http://radioexpress.free.fr afin de retrouver l'émission qui leur a été dédiée au cours de la semaine. Nous allons maintenant marquer une pause musicale de circonstance avec Boris Vian.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvert, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour, blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà, et dans la salle plus d'un cœur bas. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cow-boys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, 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 garicoutère s'approche du ravin d'enfer. Fais attention pauvre crétin, car l'anlade n'est pas très loin. À 500 mètres il loge une balle dans un croûton de pain. Gar, 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 pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu Cigari sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
Et on a eu beaucoup d'enfants. Ça nous rappelle Céline qui vient d'en avoir un. C'est beau les enfants, c'est bien.
Oui, oui, oui.
Une petite parenthèse culturelle.
Parce que Boris Vian, ça fait penser que cette année.
Cette année, justement, il va y avoir. Enfin, cette année, non, l'année prochaine.
Enfin, l'année prochaine.
Voilà,
c'est
le
vrai.
Vendredi 6 mars à 18h30, et ce sera gratuit à la bibliothèque municipale, des lectures en mémoire de Boris Vian, 1920-1959. Et donc, cette année, oui, c'était le 60e anniversaire de sa mort.
Ça doit être
c'est
ça,
bien
du
ça.
Coup, ouais. Ouais.
Qu'est-ce qu'on est bon en calcul mental à Saint-Pierre Express. Voilà des lectures réalisées par deux comédiens de théâtre, Antoine Marneur de la compagnie Théâtre du Détour et Bruno de Saint-Riquier du Théâtre de la Forge. On en revient à ce sujet qui nous anime, le Centre Culturel Communal. Et donc tu n'es pas venue toute seule Marie, tu es venue accompagnée de Maud Terrier et Quentin Mabi, tous les deux, du collectif Le Poulpe. Alors ma première question c'est pas qu'est-ce qu'un poulpe ? C'est un animal avec plein de tentacules je crois, c'est ça, plus ou moins.
Hein. Oui, c'est complètement ça.
8, je sais plus d'ailleurs.
8,
voilà, exact. D'accord.
Ouais. Alors ça serait pour
Octopus.
Ça
ouais. Ça serait pour ça.
Parce que vous êtes combien ?
On est 8.
Oh
oui, ça a l'air d'être choisi au hasard comme ça, mais en fait...
Ah, il n'y a pas de hasard.
C'est hyper bien réfléchi, en fait.
Oui. Bon, alors maintenant on sait pourquoi le collectif s'appelle Le Poulpe, et est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un collectif, ce qu'est votre collectif ?
Eh bien pour nous... Parce qu'il y a plein de manières d'être collectif. Tout le monde peut se réclamer d'être collectif du moment qu'on fait quelque chose plus ou moins les uns à côté des autres. Nous, on a choisi de s'appeler collectif parce que, comme le disait Quentin, on est 8 et on est sorti du conservatoire de Tours plus ou moins autour des mêmes années. On voulait continuer à travailler ensemble et on voulait former un collectif d'acteurs et d'actrices. Et ça marchait très bien au plateau, et donc on a décidé d'étendre cette solidarité-là et cette coopération-là à toute notre structure. Certains avaient des envies individuelles de fonder des compagnies ou de faire des spectacles avec leur propre ligne artistique. Nous, on a décidé de s'entraider là-dedans, et donc on fait des spectacles avec le collectif où on est 8 sur scène, et donc c'est avec l'un de ces spectacles qu'on viendra le 15 mai à Saint-Pierre-des-Corps. Mais on fait aussi d'autres spectacles plus légers, plus petits, plus hybrides, voilà. Donc on fait plein de spectacles différents.
Et pourquoi avoir choisi ce nom collectif et non pas Compagnie Le Poulpe ?
Compagnie, pour nous, ça avait une sonorité un peu... traditionnelle, dans le sens un metteur en scène ou une metteuse en scène qui dirige des acteurs, qui... à une pensée qu'il propose aux autres et qu'il propose à un public. C'est pas quelque chose dans lequel nous on se retrouvait. Nous on construit nos spectacles à 8. Donc Daniel nous demandait tout à l'heure quel était notre métier au sein du Poulpe. Donc on est comédien-comédienne, mais on est aussi metteur en scène, scénographe, dramaturge. Voilà, on fait tourner les rôles, on peut pas être tout en même temps, mais en tout cas on aurait potentiellement envie d'être tout ça à la fois. N'est pas juste comédien au service d'une pensée d'un metteur ou d'une metteuse en scène.
Alors je me permets de citer les noms de vos petits camarades. Il y a Cécile Carbonel, Jules Jacquet, Louise Maurice, Delphine Meillan, Lorraine Nouvellon et Nicolas Spina.
C'est ça, c'est Nouvellon.
Nouvellon. Vous allez être en résidence ici au Centre Culturel Communal.
On va encore l'être.
Et vous allez encore l'être.
Quelques jours en mai 2020, avant la première de notre de prochain spectacle, qui s'appelle Good Girl, jusqu'à ce que nous. Good Girl, là-dessus on est tous d'accord, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, oui, voilà, il y a un vrai partenariat qui s'est mis en place, là, pour cette saison avec le Centre Culturel, puisqu'il y a ces accueils en résidence, la programmation pour la première, et puis il y a aussi des ateliers qu'on va mener auprès de collégiens sur le territoire de Saint-Pierre-des-Corps sur l'année à venir.
Avec donc des collégiens du collège Jacques de Cour et Stalingrad. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une résidence d'artiste pour nos auditeurs auditrices ?
C'est très simple, c'est un temps de création, un temps de répétition d'un spectacle. Le mot le plus commun qu'on emploie, c'est répétition, mais en fait, voilà, c'est d'être accueilli dans un lieu, dans un théâtre, et de pouvoir créer dans de bonnes conditions, avec de la technique, c'est-à-dire de la lumière, du son, d'être dans une vraie salle, pour pouvoir créer pleinement, complètement le spectacle, quoi, tout simplement.
Et je dirais même plus, alors, on a les choses techniques, mais la différence dans la résidence, dans le mot résidence, il y a le côté résider, c'est-à-dire qu'anciennement, c'est tu venais manger, habiter, dormir et travailler dans un lieu. La différence entre, on va dire, la résidence et la mise à disposition, c'est-à-dire mettre à disposition ce plateau pour des artistes, parce qu'on le fait aussi, c'est que la résidence va aussi avoir techniquement une prise en charge de l'hébergement. Bon, en l'occurrence, vous êtes tous tourangeaux, donc la question se pose pas, mais des repas aussi. Et vous êtes allé plus d'une fois manger à la restauration municipale, à ce titre. Donc voilà, durant cette semaine de résidence qu'on a fait en novembre dernier, et que vous allez donc refaire en mai prochain, avant la première, puisque rappelons-le, voilà, la première de ce spectacle qui est, en toute objectivité, pour moi, le meilleur spectacle du monde 2020. Vraiment, j'en reparlerai, mais j'ai pris une énorme claque, j'ai vu deux temps de répète. Et pour ceux qui disent « Ah, le théâtre, ça va être chiant et tout », là, c'est complètement dingue, en fait. Il y a de la vidéo sur scène, c'est les personnages se mélangent, il y a plein, c'est hyper astucieux, c'est frais, c'est drôle, c'est... voilà, vraiment, c'est venez le 15 mai à 20h30. Je connais même la date par cœur, tellement faut venir, en fait.
Le nom de la pièce est « Good Girl », entre parenthèses, là-dessus, on est tous d'accord.
C'est ça, en fait, si Quentin s'est mélangé un petit peu les pinceaux, c'est que notre précédent spectacle, c'était ad lib, entre parenthèses, jusqu'à ce que nous soyons pleinement satisfaits. On aime bien jouer sur un petit titre et, entre parenthèses, ce qui nous rassemble autour de ce spectacle. Donc ouais, Good Girl, là-dessus, on est tous d'accord.
Bah, c'est un spectacle qu'on a commencé à créer donc l'an dernier, et pour faire rapidement... C'est basé autour d'un fait divers américain, c'est-à-dire notre point de départ, c'est l'affaire John Bennett Ramsey, c'est l'assassinat d'une petite fille dans le milieu bourgeois américain dans les années 90. Le lendemain de Noël, on retrouve une petite fille assassinée dans la cave de la maison de ses parents. Le mystère est entier sur qui a commis ce meurtre qui est atroce. Et en fait, cette affaire a eu un retentissement médiatique énorme aux États-Unis. C'est une affaire qui a choqué l'Amérique. Et ça a été donc une enquête et une affaire médiatique qui a duré pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, puisque en fait, 20 ans après, on n'a toujours pas découvert qui était le véritable meurtrier de cette petite fille. Donc il y a eu... beaucoup de passion autour de cette affaire, beaucoup d'hypothèses. Et nous, ce qui nous a particulièrement intéressé dans cette affaire, dans ce fait divers, c'est que potentiellement, y a un nombre très nombreux de coupables potentiels qui ont tous des bonnes raisons de l'avoir fait. Et c'est cette espèce de multiplicité de réalités parallèles possibles qui nous a passionnés autour de ce fait divers. Nous, ce fait divers, c'est un point de départ pour nous pour parler de notre rapport au fait divers plus largement. C'est-à-dire pourquoi, en fait, c'est des affaires comme celle-là passionnent autant les gens. Pourquoi, quand on nous raconte une tragédie comme celle-là, en tant qu'auditeur de l'affaire ou en tant que spectateur, si on nous la raconte dans une salle de théâtre, on peut pas s'empêcher de finir par être ému, s'y intéresser, commencer à juger, se faire un avis, se dire non, à mon avis c'est plutôt telle personne pour telle et telle raison. Et c'est cette implication du spectateur qui est émotionnelle et intellectuelle qu'on veut mettre en jeu mais aussi mettre en cause dans le spectacle.
Alors c'était Céline qui vous avait sollicité puisque à l'époque
Oui, c'est d'accord. Céline qui était venue nous voir et la première à nous dire qu'elle avait envie de nous soutenir là-dessus et que la ville de Saint-Pierre voulait nous soutenir là-dessus. Donc en fait c'était Saint-Pierre Décor est notre premier coproducteur.
Donc c'est comme ça que ça se passe justement, il y a une relation entre le centre culturel, les artistes, comment Comment se noue une relation? Comment se met en place un spectacle, une résidence?
Bah après, je vais peut-être parler un petit peu pour Céline, mais vu qu'elle n'est pas là, et puis je vais parler aussi de notre côté. C'est une relation de confiance qui s'est établie. Elle est venue voir notre premier spectacle. On l'a re-rencontrée en rendez-vous. Elle a apprécié, je pense, l'énergie qu'on mettait dans les choses qu'on voulait créer, et pas seulement les objets finis, c'est-à-dire pas que les spectacles, mais aussi la manière dont on fonctionne et la manière dont on a envie d'ancrer notre travail sur le territoire. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et puis voilà, c'est de la confiance entre ce centre culturel et puis notre association.
Et comment vous allez intervenir auprès de ces jeunes collégiens?
Eh ben en fait, ça a déjà commencé. Mmh. Ça a commencé cette semaine. Ça a même commencé dès le mois de novembre, où on a invité trois classes de quatrième, les trois classes avec lesquelles on va faire des ateliers, à venir assister à une de nos répétitions. On a choisi délibérément de ne pas montrer un bout du spectacle en entier de A à Z, mais on a choisi de répéter une scène plusieurs fois devant eux, et ensuite de questionner ces collégiens sur d'après vous, qu'est-ce qu'on a cherché à travailler? Comment on a cherché à les impliquer dans le processus de création en tant que spectateur? Pour nous, ça faisait partie du travail de médiation, comme disait tout à l'heure Marie. Comment on suscite la curiosité de collégiens qui ont parfois l'occasion de sortir ou d'aller au théâtre, mais parfois pas forcément, parce que des fois ils pensent que c'est pas pour eux, ou que voilà, ça va pas les intéresser forcément.
Il y a eu plein de questions ce jour-là, quoi. Vraiment.
Oui. Ouais, on a eu beaucoup de questions.
C'était bien à fond.
Et donc avec Jules, un autre membre du collectif, on a commencé cette semaine. On est allé au collège Stalingrad avec les deux classes de quatrième, et on a fait des ateliers avec eux. Et ça s'est très bien passé. On a fait des petits exercices d'échauffement, on a parlé de notre manière de fonctionner en tant que collectif, et on a essayé de leur faire expérimenter ça. On a essayé de proposer quelque chose qui change très probablement de ce qu'ils vivent tous les jours en classe, c'est-à-dire de s'écouter à 25, de se répartir la parole sans qu'on nous l'attribue, de se faire passer une dynamique, et aussi de se jeter à l'eau, d'improviser un peu de la manière dont on l'a fait quand on était en répétition devant eux, et on a proposé eux à leur tour de s'emparer de ça, et puis de réfléchir ensemble à ce que c'était qu'une histoire vraie, ce que c'était qu'une fiction, ce que c'était que de la déformation de la réalité et de la spéculation du point de vue, et de comment on rendait une histoire vraie crédible ou pas crédible, même si elle n'est pas vraie. Enfin voilà, de questionner ce rapport-là à l'image en général et son propre travail de spectateur. Parce qu'ils sont confrontés à des images toute la journée, comme nous. On est fans de séries, de films, de vidéos sur Internet. Et en fait, on se laisse un peu balloter là-dedans. Et pour nous, c'est essentiel de questionner ça en tant que citoyen. Voilà, au sein d'une société qui est surconsommatrice d'images et de points de vue.
Et c'est cette question du discours médiatique, justement, qui avait intéressé, on va dire, pour travailler ensemble avec le collectif Le Poulpe, c'est la capacité de vendre, enfin, de se dire, s'il y a bien quelque chose aujourd'hui à aborder, peut-être avec des collégiens, c'est cette question des images et voilà, plus globalement du discours médiatique, c'est aussi autour de ça que c'est créé, on va dire, tout ce parcours d'action artistique, et qui a d'ailleurs reçu le soutien de la DRAC aussi pour pouvoir se faire. Je te le précise.
Donc la culture contribue à l'éducation citoyenne, en quelque sorte?
Ah bah là, complètement, je pense.
Nous, c'est comme ça qu'on envisage notre travail.
C'est ça. Ah, voilà.
C'est comme ça que vous l'envisagez?
Oui. Je pense pas qu'on se considère forcément comme des artistes toujours militants. Ouais. Bah, en tout cas, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose de politique. Donc, autant en avoir conscience, faire avec, s'en emparer et voir ce qu'on veut communiquer aux gens qui regardent les spectacles qu'on fait.
En fait, on veut pas forcément défendre des idées. On n'est pas là pour imposer ou pour transmettre directement, ou asséner des valeurs, ou être dans quelque chose de didactique. Mais déjà, quand on parle de la manière dont on fonctionne, en fait, ça se ressent dans comment notre spectacle est construit, c'est-à-dire vraiment collectif, même si à la fin ce sont des directions artistiques qui finissent par être très tranchées, ça reste un travail collectif. Et dans notre manière aussi de recevoir le spectateur et de concevoir notre rapport au public, il y a quelque chose de politique et d'inclusif. Et pas de... Enfin voilà, on aime que le théâtre soit un fait de société.
Et on aime bien plutôt que nous... Enfin on aime bien mettre les gens en réflexion, c'est-à-dire pas tant leur asséner une idée déjà digérée qu'ils auraient plus qu'à avaler, mais les mettre à un endroit où ça les met en marche intellectuellement, ça suscite une interrogation, un choc, un questionnement. Et à partir de là, en fait, c'est là où ça nous intéresse, en fait. C'est surtout bien poser les bonnes questions, plutôt qu'apporter des réponses toutes faites.
Et puis on aime bien rigoler aussi, parce que là on a l'impression que c'est hyper intello, mais en fait,
on parle d'un drame, d'un meurtre, d'une
petite fille. Mais en fait, on pense que le rire rassemble et que l'absurdité rassemble, et on aime bien jouer avec des codes culturels que tout le monde connaît. Donc que ce soit les codes du cinéma, que ce soit les codes des séries, on aime bien tout ce qui est suspense à la fin d'une scène. On aime bien, enfin voilà, c'est des choses qu'on a envie de partager avec le public.
C'est vrai que ce Good Girl, enfin, les étapes de travail que j'ai pu en voir, c'est vraiment voilà, c'est une pièce d'actualité. C'est vrai qu'on sent l'influence série, le côté cinéma. C'est pour ça qu'il y a un côté très, vraiment très frais, très t'accroches en disant c'est qui le tueur.
Des collaborations entre le centre culturel communal, des artistes, des opinions assumées. Alors, je pense à Céline qui est venue vous chercher, qui avait envie de travailler avec vous. Je pense à toi Marie qui revendique ce spectacle comme le meilleur de l'année 2020.
Ouais.
Voilà.
Du au monde. Hein.
Voilà. Meilleur spectacle du monde 2020.
En équilibre entre sur deux fils, celui de la culture et puis un petit peu du politique, enfin de la place du citoyen qui questionne, un travail qui est fait aussi pour susciter l'interrogation dans les esprits des spectateurs. C'est ça, votre démarche artistique.
Oui, mais aussi, comme disait Maud, de faire rire, mais aussi. Créer des moments de beauté au moment où on s'y attend moins, surprendre, émouvoir, faire pleurer. Enfin, on a l'ambition, qui est pas toujours simple, mais d'essayer de proposer un espèce de moment pour le spectateur où il passe par plein de choses très différentes, en fait. On aime bien l'effet grand 8, quoi, où on va rigoler, et puis d'un seul coup être touché, et puis d'un seul coup se poser une question. On aime bien cette espèce de mélange, quoi. On n'aime pas trop se cantonner à un genre ou à un état d'esprit ou à un registre.
Et c'est d'ores et déjà réussi.
Merci. Je crois qu'elle fera partie de la programmation 2020. Il s'agit d'Anastasia.
Oui, tout à fait. Tout à fait, chanteuse. Je pense qu'on va la voilà.
Anastasia,
on en reparlera après, mais je vous laisse d'abord écouter ce morceau d'Anastasia qui s'appelle
Left Outside Alone.
Oh yeah.
Radio Saint-Pierre Express 97.4.
Can't find there. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside. All my life I've been waiting for you to bring up
Saint-Pierre Express 97.4 FM, toujours en compagnie de Marie Dubois, Maud Terrier et Quentin Mabi, autour de la programmation du Centre culturel communal. Nous allons poursuivre un peu nos échanges autour des ateliers que vous menez avec ces jeunes du collège Jacques Decour et Stalingrad. Quel retour vous font-ils de votre travail de comédien ?
Eh ben en fait, ça correspondait pas forcément à ce dont ils s'attendaient. Pour eux, un comédien ou une comédienne, ça devait jouer vraiment comme dans la réalité, essayer de faire, de reproduire des émotions réalistes. Et en fait, dans la séance qu'ils ont vue, dans la répétition ouverte qu'ils ont vue, eh ben on était sur un autre mode de narration où là, on faisait du muet et où il y avait une narratrice qui parlait dans la télé, en vidéo, comme disait Marie. Voilà. Donc c'était pour eux, c'était un peu déconcertant et en même temps intéressant. Et c'est ce qu'on a travaillé avec eux dans les ateliers là avec Stalingrad et donc avec le collège de cours, ça va être un peu plus étalé sur l'année 2020. Et ils vont avoir plusieurs séances avec un autre binôme de comédiens, comédiennes. Et puis on se retrouvera le vendredi 15 mai pour l'avant-première. Les collégiens vont avoir la chance d'assister à l'avant-première à 14h30 au centre culturel. Et la première aura lieu le soir à 20h30.
Pourquoi vous intervenez auprès d'un jeune public comme ça? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous anime?
Bah, c'est l'envie de transmettre le théâtre, parce que pour nous c'est quand même vraiment d'abord un contexte où jouer, où raconter des histoires ensemble, où s'amuser, et c'est quelque chose qu'on a envie de partager, surtout avec comment dire, un public plutôt jeune. Et puis il y a aussi ce dont parlait déjà Maud, en fait, les valeurs collectives qui nous tiennent beaucoup à cœur et qui peut-être parfois dans le système éducatif tel qu'il existe actuellement sont pas toujours comment dire, véhiculés, c'est-à-dire peut être véhiculés en théorie mais pas mis en place dans une pratique concrète de la vie courante, alors qu'en fait c'est les premières valeurs, c'est un peu théorique hein, mais qui font la démocratie entre guillemets, c'est-à-dire le fait de laisser la place à chacun d'exprimer, de décider ensemble, de fonctionner de manière collégiale. C'est je veux dire, si on n'y arrive pas à 8 ou à 25, comment on peut y arriver à l'échelle d'un pays? Enfin, c'est un peu ça aussi qui nous intéresse, quoi. Donc c'est aussi de distiller quelques morceaux de ces valeurs-là, quoi. Enfin, d'essayer de transmettre ces idées-là, de montrer que c'est possible, qu'on y arrive, qu'on peut faire un spectacle comme ça, qu'on peut mener une aventure collective comme ça, que ça demande beaucoup de discussions, beaucoup d'efforts, mais que si on en a vraiment envie, si on a le goût de ça, ça peut marcher.
Et que le collectif n'efface pas l'individu, et qui, au contraire, peut le mettre en valeur. Du moment qu'on, comme disait Quentin, qu'on se laisse la place d'être différent.
Alors, les arts, la culture, ça nous permet d'apprendre plein de choses. Je suis, j'allais dire, bien placé pour le savoir, parce que j'apprends plein de choses, moi, en exerçant ce métier d'animateur radio. Et en préparant cette émission, Marie, tu m'as parlé du droit culturel. Je ne savais pas que ça existait.
Alors,
est-ce que tu pourrais
malheureusement,
l'expliquer pour nos auditeurs, auditrices?
Alors, je suis loin d'être une spécialiste du droit culturel. Il y a des gens en France, je pense à Jean-Michel Lucas notamment, qui était venu d'ailleurs, pour la petite parenthèse, mais je reviendrai après, je ferme cette phrase. Les droits culturels, pourquoi je t'en ai parlé? Parce que c'est une notion, en fait, les droits culturels, c'est une façon de voir la culture qui place la diversité des identités culturelles au cœur d'un projet culturel. C'est-à-dire, sous ce jargon un peu, voilà, les droits culturels, en fait, c'est une notion qui est rentrée dans la loi en 2015, la loi qui s'appelait à l'époque, je ne sais pas si vous en souvenez, la loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Il y avait un paquet d'articles, de trucs, qui parlaient de tout et rien, puis il y a un article 103 qui parle des droits culturels et qui stipule que l'État et les collectivités territoriales, donc cette ville, toutes les villes, les métropoles, sont garants de la mise en œuvre des droits culturels. Bon, super, mais ça veut dire quoi? Et pour savoir ce que ça veut dire, il faut aller chercher dans différents textes qui, eux, datent pas de 2015, mais bien avant ça, qui sont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, vous avez imaginé comme c'est vieux, ça a plus de 50 ans, qui sont des conventions de l'UNESCO en 2001, qui sont la déclaration de Fribourg en 2005 et qui sont d'autant de textes qui expliquent que c'est comme ça, en tout cas moi, que j'interprète cette question des droits culturels, c'est qu'il ne s'agit pas de mailler le territoire d'œuvres culturelles, de théâtre, de spectacles, et de dire au commun des mortels, venez voir ces grandes œuvres de l'humanité.
Salut Malraux, petit tacle à toi, parce que en fait c'est ce qu'on fait surtout en France depuis 60 ans. En fait, c'est une culture très descendante en fait, où on place dans les théâtres les structures culturelles en disant voilà, cette culture-là elle est légitime, venez la voir. Les droits culturels, ils vont finalement peut-être venir rendre plus horizontale cette vision de la culture en disant que chacun est possesseur d'une culture, chacun est en capacité de l'exprimer et chacun surtout doit être en capacité de s'attacher à une identité culturelle, mais de pouvoir en changer. Et derrière ça, super, il y a la notion de liberté, en fait. Mais aujourd'hui, il y a, et c'est là je reviens à ce que se disait ce fameux monsieur Jean-Michel Lucas, alors pourquoi je le cite beaucoup, c'est que en 2015, en 2016, décidément, je ne sais plus, quand le Centre culturel a fêté ses 50 ans, je travaillais dans une association qui s'appelait Culture du Cœur à l'époque à Tours, et qui est un partenaire de Saint-Pierre depuis des années, et qui justement fait le lien entre des structures sociales d'un côté, comme le Sac à Malice, et puis des salles culturelles de l'autre, pour permettre à tout un public d'enlever le plus de freins possible à aller fréquenter des équipements culturels, et que la culture justement soit pas un luxe quand on a de l'argent, du temps, la connaissance et le capital culturel à la Bourdieu qu'il faut, mais que c'est un droit pour tout le monde. Et du coup, dans le cadre de ces 50 ans, Céline m'avait proposé qu'on travaille ensemble à une conférence, et j'avais donc contacté ce fameux Jean-Michel Lucas qui était venu faire une conférence sur les droits culturels à Saint-Pierre-des-Corps sur ce plateau. Donc Saint-Pierre était déjà précurseur, on va dire, c'est une ville, j'ai pas d'action à vendre, je suis pas fonctionnaire à Saint-Pierre, je suis là que de passage, donc c'est en toute objectivité que je dis ça, mais c'est des questions déjà que la ville se pose depuis un moment. Et Jean-Michel, ce soir-là, avait expliqué qu'il y avait ce qu'on appelait d'un côté la liberté formelle et effective. La liberté formelle, c'est tout le monde peut lire un livre, donc tout le monde peut aller à la bibliothèque, mais en fait, ça c'est la liberté de forme en fait. Mais de façon effective, est-ce que tout le monde au final a cette capacité d'aller vraiment lire un livre et etc. Et que, je sais pas si je l'explique très bien, mais que on peut avoir le sentiment que tout le monde est libre en fait de choisir ces formes de culture, mais que derrière c'est un petit peu plus difficile, parce que si vous vous sentez pas légitime, si vous avez pas les c'est vraiment des questions des freins tarifaires, c'est une question de légitimité. Je me sens pas légitime à aller au théâtre parce que je ne connais pas le théâtre et ça va pas être mon milieu. Et il faut arriver à passer de cette liberté formelle, on va dire, qui est le poulpe joue, en plus les tarifs sont pas énormes, on fait des actions avec les collégiens, a priori tout le monde devrait pouvoir venir, à la liberté effective qui est non. On sait bien que c'est le chemin, il est encore plus compliqué que ça. Donc au final, les droits culturels, c'est une vision moi qui me plaît dans la culture, parce que ça va nous forcer à regarder aussi notre histoire culturelle et telle qu'elle a été montée dans l'histoire culturelle française, qui est une spécificité en Europe et dans le monde, et peut-être de réfléchir aujourd'hui face à une politique culturelle en pleine mutation. On voit bien que les pratiques culturelles des jeunes sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Il suffit de regarder le public qui va en concert de musique actuelle ou rock. C'est pas des jeunes de 18-20 ans. Comment on accompagne ces mutations aujourd'hui? Pourquoi on fait de la culture vis-à-vis aussi de, sans les diaboliser, mais c'est une réalité des médias, des plateformes de streaming, etc., qui ont pénétré le champ culturel et donc le champ de l'industrie aussi, avec tout ce que ça a donné en termes d'industrie et de produits culturels. Comment on repense tout ça? Est-ce qu'on doit commencer à continuer à faire ce chemin descendant qui doit continuer à subsister? Clin d'œil aussi au conservatoire, au théâtre Olympia, qui sont des structures qui, s'ils n'existaient pas, vous seriez aussi peut-être pas là aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir des lieux garants de culture, mais je pense qu'il faut revenir à... Il faut re-renforcer des liens avec l'éducation populaire, là où malheureusement, il y a 60 ans, on les a séparés. On a fait un ministère de la culture, et puis on a dit de l'autre côté il y a le social, on va pas mélanger ceux qui font des colliers de nouilles en fait et ceux qui font du théâtre. Donc on a perdu cette logique MJC, maison de la culture, etc. C'est un peu délité. Je suis un peu. Bref, tout ça pour dire que les droits culturels, ça peut être bien de commencer à voir comment on pourrait retravailler les choses dans ce prisme-là. Et par exemple, si je cite votre exemple, pour moi, la semaine de la radio, vous êtes complètement dans les droits culturels. Vous permettez autour de cette table à des gens d'univers, d'identités culturelles différentes de venir s'exprimer. Je repense au spectacle d'Amine mardi soir que j'ai regardé moi sur le Facebook Live. Clairement c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce jeune artiste qui a invité tous ses potes sur scène et vraiment qui a un spectacle qui j'ai trouvé super, et de se dire mince, comment on rend aussi ça davantage visible. Donc vous faites la diversité culturelle, comme par exemple Radio Béton en fait très bien aussi depuis 30 ans avec toutes ces émissions vous avez du zouk un dimanche matin, du folk, et ça garantit voilà vraiment l'expression, la diversité des identités culturelles. Voilà.
Merci.
Mais en vrai, faut que je vous dis ça, mais j'aimerais bien travailler plus cette notion-là aussi. Hein.
On le comprend déjà dans la programmation du centre culturel communal, puisqu'il y a des cours de piano, guitare, chorale, hip-hop, il va y avoir du stand-up, il y a de la musique, du théâtre, de la danse, il y a déjà une grande diversité d'art qui est proposée. C'est pas évident, l'art et la culture, le monde il est vaste, il y a beaucoup d'humains, la vie elle est courte, c'est un peu compliqué des fois de se dire, enfin je parle à titre individuel, je sais qu'il y a des domaines artistiques que j'aimerais mieux découvrir, mais la musique classique par exemple, que je connais très mal et ça va me demander du temps de la comprendre, j'ai pris le temps de comprendre le blues et la country, la musique classique c'est encore un autre univers, voilà, et puis des fois on tombe sur un morceau qui nous plaît pas, ce qui fait que, oh ben non, j'explorerai ça plus tard. C'est pas évident, enfin, c'est un grand travail. Merci d'avoir expliqué ce qu'était justement le droit culturel.
Et si je peux faire une petite parenthèse, on parle de musique classique, ce qui est important aussi, parce qu'on a parlé du centre culturel, mais la galerie d'exposition, mais ce qu'on appelle la saison culturelle, et on va dire toute l'identité culturelle de Saint-Pierre-des-Corps, elle dépasse bien évidemment ces structures-là. Enfin, il y a plein d'associations qui font beaucoup de choses. Je pense au Baroque Théâtre. Enfin, il y a aussi plein de structures culturelles sur le territoire. Il y a les artistes de la Morinerie, je pense aussi. Et puis, il y a surtout en termes d'équipement, on a une bibliothèque aussi municipale. On parlait de Boris Vian tout à l'heure. Le spectacle sera donné là-bas. Le dimanche matin, il y a aussi des concerts portés par l'école de musique classique et d'autres projets. Voilà, c'est un peu, on va dire, le maillage de tout ça. Je pense au Pied Kiri aussi chaque année sur le territoire. Cette année, il y a un grand travail avec l'intention publique déménager l'art, état de siège, avec un appartelier en plein dans le quartier de la Rabatterie pour venir s'essayer à la création art plastique. Enfin voilà, c'est un peu et on essaie tous un peu les uns les autres de travailler ensemble et de faire du lien.
On va pas avoir le temps d'aborder tous les points que je souhaitais que l'on aborde. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se met en place une programmation culturelle ?
Oui, alors une programmation culturelle dans l'absolu, je ne pourrais pas te dire. À Saint-Pierre-des-Corps, là encore, on essaye d'avoir justement de pas faire des programmations qui soient uniformes et qu'on retrouve dans toutes les salles de la métropole, au Nouvel Atrium, etc. Je pense que l'ADN de Saint-Pierre, c'est quand même en tout cas cette année, il y avait cette question, comme on l'a vu, il y avait la question du discours médiatique aussi qui revient dans plusieurs spectacles. Il y a la question, des migrations, il y a la question des voyages. Je reprends Nomad in France, je reprends H2 Hébron qu'on a fait dans le cadre de la semaine de la Palestine, une performance sur les identités culturelles, cet axe de la jeunesse qui est très fort. Donc voilà, il y a des axes quand même, on va dire la question des minorités, des migrants, de la jeunesse, qui en fait on va essayer de l'aborder à partir de ce fil rouge là, en rencontrant des compagnies où il y a un coup de cœur, comme ça s'est fait pour le Poulpe, de voir ce qui fait tilt et qu'est-ce qui peut alimenter. C'est pas juste un empilement de contrats de session qu'on va faire avec telle ou telle compagnie, mais on va essayer déjà aussi de privilégier les artistes avec lesquels on va pouvoir faire justement mener un certain nombre d'actions culturelles, parce que quand on regarde la programmation, il y a tous les spectacles, puis il y a aussi toute la partie immergée de l'iceberg que viennent d'expliquer Maud et Quentin, qui sont tout le travail dans les collèges qu'on ne voit pas sur une plaquette. Et ça, il y a énormément de spectacles et de propositions artistiques où on essaye de développer ce volet d'action culturelle là. Donc voilà, c'est vraiment travailler aussi avec le réseau local, c'est important. Il y a énormément d'artistes dans cette ville, cette métropole, même ce département-là. Et c'est aussi avec des artistes. Je sais que Céline, cette année, est allée au Festival d'Avignon et a pu voir aussi des choses très très chouettes. Donc c'est un peu un équilibre à trouver entre tout ça, et surtout ne pas, je pense qu'être programmateur, c'est pas forcément penser évidemment à soi, à ses goûts, c'est pas être dans le jugement de c'est bien ou ça mérite d'être encore travaillé, mais c'est qu'est-ce que, tiens, là, si je me mets à la place de quelqu'un qui pousserait les portes, là, un habitant de Saint-Pierre, qu'est-ce que j'aurais envie d'offrir, qu'est-ce que j'aimerais trouver sur une saison culturelle en diversité, en justement, c'est de pouvoir se mettre à la place d'eux.
En début d'émission, tu nous avais dit que on reviendrait sur l'identité culturelle de Saint-Pierre-des-Corps. Alors l'émission touche à sa fin, est-ce que tu pourrais nous définir l'identité culturelle de Saint-Pierre-des-Corps ?
Alors je sais pas si je peux la définir, mais ça reprend finalement un peu tout ce que je viens de dire, c'est que je pense que Saint-Pierre, ça fait un moment que ces questions-là de pas faire du spectacle pour du spectacle, en fait. Je pense que l'identité, elle est aussi du... Ah oui, vous avez prêt, ouais. Je pense qu'on aurait dû faire ça après une pause, tu vois, ça aurait surpris mais bon, on en reviendra sur la scène, Wahid, messieurs, dames. Voilà. Et non, l'identité culturelle, c'est pas de faire du remplissage pour faire du remplissage. C'est vraiment pas le créneau de Saint-Pierre-des-Corps. C'est pas de vendre le plus de billets possible pour faire des spectacles qu'on verra un peu partout. Mais c'est vraiment d'aller provoquer des rencontres, d'aller justement réfléchir. C'est, alors, j'ai rien contre la culture spectacle au sens passer un bon moment. Ça fait vraiment partie intégrante. La notion de plaisir, on l'oublie souvent. On va demander aux gens de tout le temps réfléchir quand ils vont voir ou consommer un truc. Non, il y a du plaisir, mais c'est quand même ce plaisir de garder un œil sur des enjeux politique au sens de solidarité entre les peuples. Je reprends l'exemple de la solidarité palestinienne. On a vraiment une sensibilité, et aussi d'aide à la création, à la production de compagnies. C'est aussi ça l'identité de Saint-Pierre. C'est le soutien aussi aux compagnies locales. Et je pense que c'est pas une programmation qui se veut tape à l'œil, et c'est tant mieux. Il y a quelque chose à dimension humaine et qui doit d'ailleurs continuer. Et c'est cette identité-là qu'il faut continuer à faire persévérer 50 années de plus encore, je pense. Mmh.
Oui, parce que c'est, donc je suis allé vérifier, c'est en 1967 que le centre culturel communal a été créé.
Donc c'était 2017, tu vois.
C'était 2017. Je suis allé vérifier grâce à Internet, ça sert à ça des fois. Notre émission est terminée. Merci à vous, merci à toi, Marie Dubois.
Merci beaucoup pour votre invitation.
C'est normal.
Et merci d'être venu.
Merci beaucoup.
C'est vous qui nous hébergez, et à la fin, merci pour votre invitation.
Ah oui, c'est vrai. En plateau quand même.
À la limite du squat quand même, ouais. Presque 12 heures par jour.
Ça va, ça se passe bien quand même.
Bon, tant mieux. On va vous laisser en compagnie d'une pause musicale qui va représenter la programmation 2020, Marjolaine Piémont.
Oui, encore une artiste féminine, puisqu'au mois de mars, dans le cadre du festival Bruce Mandel, qui est un festival déjà depuis plusieurs années aussi, qui s'installe, on va dire, en Indre-et-Loire, dans plusieurs salles, c'est mettre la création féminine à l'honneur. Donc au mois de mars, vous aurez ce qu'on appelle des plateaux, des propositions qui sont très féminines. On a écouté Anastasia avant, et ce même soir, au mois de mars, elle jouera ensuite en compagnie, Marjolaine Piémont prendra qui est aussi une artiste de chansons françaises, prendra la suite. Et on va l'écouter maintenant avec le morceau
Je suis bonne. Merci à Maud Terrier, Quentin Mabi du collectif Le Poulpe, merci à toi Marie Dubois. Vous retrouverez l'interview de Marie-France Beaufils après ses pauses musicales en direct à partir de 17h sur Saint-Pierre Express 97.4 FM.